pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un sursaut pour éviter le chaos. Le climatologue Jean Jouzel et l'économiste Pierre Larouturoux ont lancé un appel solennel aux chefs d'État et de gouvernements européens pour négocier au plus vite un pacte finance-climat qui aurait de multiples vertus. Diviser les émissions de gaz à effet de serre européennes par 4, dégonfler la bulle financière et créer plus de 5 millions d'emplois. Ce serait une belle réussite, mais comment y parvenir? Eh bien, nous en parlons tout de suite avec eux puisqu'ils sont nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jean Jouzel.
Bonjour Anne-Cécile Brun.
Alors, nos auditeurs vous connaissent bien, hein, car cela fait des années qu'en tant que climatologue et ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vous alertez sur les dangers du réchauffement climatique. Vous ne vous lassez pas, hein, quand on s'intéresse à cette cause, on ne peut plus s'arrêter.
Oui, ça fait effectivement plus d'une trentaine d'années que je m'intéresse au réchauffement climatique. Même plus, j'ai commencé ma thèse il y a 50 ans, en 1968, et j'ai très tôt, travaillé sur l'évolution du climat, l'évolution passée du climat d'abord, ce qui m'a progressivement amené à m'intéresser à son avenir. C'était déjà très clair dans les années 80. Quand on regarde le premier rapport du GIEC en 90, eh bien, on envisageait des réchauffements de 3 degrés au milieu du 21e siècle, des élévations du niveau de la mer jusqu'à 1 mètre à la fin de ce siècle, et nous en sommes toujours sur cette trajectoire. Vraiment, ce que nous avions envisagé, il y a maintenant 30 ans, eh bien, c'est en train de se réaliser. Et cela, c'est vraiment quelque chose qui nous pose problème, parce que nous allons, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, vers un ensemble de conséquences qui rendront très difficile l'adaptation des jeunes d'aujourd'hui au climat de demain, au climat auquel ils devront faire face dans la deuxième partie du 21e siècle.
Alors on va détailler tout cela à vos côtés, donc Pierre Larouturoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et économiste, alors vous c'est un peu plus récent votre intérêt pour cette cause?
Je suis ingénieur agronome, vous l'avez dit, donc déjà il y a 25 ans, c'est plus récent effectivement, je dois le respect, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Jean Jouzel, mais déjà j'étais élève de René Dumont quand j'étais élève à l'agro, donc René était à la retraite, mais j'allais chez lui, il me racontait tout ce qu'il avait fait.
Premier candidat écologiste français en 1974.
On avait une planète finie, que nos réserves étaient finies, qu'il fallait faire attention au sol, qu'on pouvait pas avoir n'importe quel modèle agricole pour notre santé et pour l'avenir de la planète. Donc déjà 90% de ce que disait René Dumont il y a 30 ans était juste. Hélas, les problèmes sont plutôt en train de s'aggraver, Jean vient de le dire. Tout ce que disait le GIEC il y a 20 ans est en train de se réaliser, et même peut-être que ça va un tout petit peu plus vite que ce qu'on craignait.
Alors c'est un peu déprimant ce que vous dites finalement, puisque vous dites tous les deux, ça fait 30 ans qu'on en parle et 30 ans que rien ne bouge. Donc vous avez lancé cet appel, un appel expliqué en détail dans un livre que vous avez publié chez Odile Jacob pour éviter le chaos climatique et financier. Alors Jean Jouzel, vous pouvez peut-être nous rappeler les causes en quelques mots de ce changement climatique, parce que c'est important de rappeler les choses clairement.
Bien entendu, là. Cause principale, la cause première du réchauffement climatique, eh bien, ce sont nos activités. Depuis 200 ans, nous modifions la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Alors, un gaz à effet de serre, c'est un composé, normalement, là, qui, absorbe une partie du rayonnement réfléchi à la surface de la planète. En fait, l'effet de serre, c'est, un phénomène d'abord utile, puisque sans effet de serre, eh bien, nous ne serions pas là, mais en augmentant l'effet de serre, en augmentant la quantité de gaz carbonique, de méthane dans l'atmosphère, eh bien, nous augmentons le chauffage. Il y a de plus en plus d'énergie disponible pour chauffer les différentes parties du système climatique. À chaque fois que nous brûlons du pétrole, du gaz, du charbon, nous émettons du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, ce que nous faisons également lorsque nous brûlons du bois. Mais l'intérêt, quand nous brûlons du bois, eh bien, le carbone est réabsorbé lorsque la végétation se reforme. Le méthane, eh bien, c'est quand la matière organique se décompose en l'absence d'oxygène. C'est le cas dans la panse des ruminants, dans les rizières. Donc l'agriculture est donc une émettrice relativement importante dans le cas pour le méthane et aussi pour le protoxyde d'azote, largement à cause des engrais. Voilà, donc on sait que nous modifions la composition de l'atmosphère, nous augmentons l'effet de serre, nous augmentons le chauffage. En gros, on a un peu plus de 1% d'énergie disponible pour chauffer les différentes parties du système climatique qu'il y a 200 ans. Alors, et ça se ressent, bien sûr, si on chauffe plus, eh bien on s'attend à ce que la température augmente, c'est ce que l'on observe. Les quatre dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Et puis, l'essentiel de cette chaleur va dans l'océan, et là c'est très clair, elle contribue à l'élévation du niveau de la mer, à la fois par la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et puis il y a une composante importante qui est liée à la fonte des glaciers. Donc voilà, donc on a vraiment un panorama très clair du réchauffement climatique. Et il suffit de regarder autour de soi également. Les glaciers fondent, les dates des vendanges s'avancent de 3 semaines depuis une cinquantaine d'années en France. Donc vraiment, le réchauffement climatique est sans équivoque. C'est la conclusion du rapport du GIEC.
Et les causes humaines de ce changement climatique sont aussi sans équivoque, parce que le climat a toujours varié, mais là, vous dites clairement, les causes naturelles, c'est 1/10, et les causes humaines, c'est 7/10, quoi.
Exactement. C'est une question tout à fait légitime, parce que le réchauffement que nous vivons est de l'ordre de 1 degré depuis le début du siècle, et il est exact que notre planète a connu de façon tout à fait naturelle des réchauffements et des refroidissements de cette ampleur. Donc la question, se poser la question, quelle est la part naturelle de ces variations, quelle est la part liée aux activités humaines, est une question légitime à laquelle nous avons apporté des réponses dans le dernier rapport du GIEC. Comme vous l'avez dit, le réchauffement des 50 dernières années, 7/10 de degré, est largement dû aux activités humaines.
C'est ce que tu disais l'autre jour, Jean, c'est que la dernière fois qu'il y a eu un réchauffement, il était 50 fois plus lent. Donc il y a déjà eu des réchauffements dans l'histoire de la planète, mais la dernière fois, c'était lié à notre position par rapport au Soleil en particulier, ça allait 50 fois plus lentement, et il y avait à peu près 25 millions d'êtres humains à la surface de la planète. Donc ils pouvaient bouger et trouver un endroit libre, tranquillement, pour s'installer. Or là, ça va 50 fois plus vite, avec des dérèglements climatiques. C'est pas juste un petit réchauffement d'un degré, c'est ici des énormes sécheresses, ici des énormes inondations, c'est un dérèglement en particulier du cycle de l'eau, et la planète est archi pleine. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits. S'il y a 200 millions de gens qui doivent quitter une zone parce qu'il n'y a plus d'eau, ou qu'au contraire il y a trop d'eau ou trop de chaleur, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les accueillir. C'est pour ça que le réchauffement en cours est beaucoup, beaucoup plus grave que les précédents réchauffements.
Et les conséquences se font déjà sentir cruellement dans certains endroits du monde. Exemple au Tchad, où les éleveurs peuls ont de plus en plus de mal à élever leurs troupeaux, comme le prouve ce reportage de Florence Meurice.
La voix d'Hassan résonne au milieu d'une vaste étendue désertique. Déjà 3 heures que ce jeune berger mène son troupeau de vaches sous la chaleur à la recherche d'un peu de pâturage. Pour ce peul de l'ethnie Mbororo, nourrir ses bêtes est devenu un défi quotidien.
Tout est devenu sec. Il n'y a plus de végétation. On est obligé de faire des kilomètres pour trouver un tout petit peu d'herbe fraîche pour le bétail. Ce matin, j'ai d'abord tenté ma chance de l'autre côté, mais il n'y avait plus rien, alors on a été obligé de changer de direction pour venir ici. Je suis encore très jeune, mais depuis que j'ai commencé à travailler, il y a 3 ans, la situation ne fait qu'empirer.
Saison des pluies qui se dérèglent, désertification rampante même ici, à seulement une trentaine de kilomètres de la capitale, N'Djamena, le changement climatique menace les ressources en eau et en nourriture.
On est obligé de se déplacer beaucoup plus souvent et d'aller plus loin. On ne reste pas plus de 2 ou 3 jours dans un même endroit et on essaie de se rapprocher au maximum du fleuve Chari. Mais ça ne suffit pas. Je voudrais que les choses redeviennent comme avant. Si ça continue comme ça, il ne restera plus rien de nous. Parfois, je me dis que je n'atteindrai pas l'âge de mon père. C'est terrible.
Manque de pâturage pour les bêtes, manque d'eau aussi. Dans cette zone où s'étalait autrefois le lac Tchad, seule subsiste aujourd'hui une petite mare boueuse que doivent se partager éleveurs, enfants et animaux. Un environnement de plus en plus hostile qui menace la survie des troupeaux et de toute la communauté Mbororo. Adama, 40 ans, le sait bien. Elle qui, chaque jour, perchée sur un mince tabouret de bois, participe à la traite matinale.
On traite les vaches une seule fois par jour le matin. Et l'après-midi, on laisse les veaux téter leur maman. Alors qu'avant, on faisait la traite le matin et le soir. Et quand il y avait beaucoup de lait, je pouvais le vendre au marché pour acheter des habits. Mais maintenant, il n'y en a même plus assez pour nourrir les enfants. Et quand les bergers reviennent de la brousse, on a honte, car on n'a rien à leur donner. Regardez cette vache-là, elle n'a que 3 ans. Et celle-là, elle n'a que 2 ans, mais à cause de la faim, elles vieillissent prématurément. Leur peau est toute fripée et elles meurent plus vite. Et tout ça, c'est à cause du manque d'eau et de pâturage.
Avec la maigre récolte du jour, Fatima prépare ce qu'elle peut de beurre. Cette jeune femme de 20 ans est mère de 3 enfants. Elle s'inquiète pour leur avenir.
Avant, avec le lait, on achetait du miel pour les enfants. Mais maintenant, on ne peut plus. On doit trouver d'autres moyens de les nourrir. Et on est obligé de vendre nos vaches pour acheter du miel. Mais vendre notre bétail, ce n'est pas du tout dans notre culture. Depuis 5 ou 6 ans, c'est de pire en pire. Et notre troupeau ne fait que diminuer. Soit nos vaches meurent, soit nous sommes obligés de les vendre. Résultat, tout le monde a faim et on se sent démuni. Mon dernier fils a 11 mois et je me demande à quel âge il marchera. Je suis vraiment inquiète.
Pour mieux conjurer la sécheresse, les éleveurs Mbororo ont modifié leur trajectoire et leur calendrier de transhumance. Désormais, ils migrent vers le sud plus tôt dans la saison. Objectif, se rapprocher au maximum du fleuve Chari. Résultat, ils entrent en concurrence avec les agriculteurs et se retrouvent contraints de circuler dans les interstices de champs cultivés. Cette concurrence engendre des conflits, comme le déplore Hassan, le fils du chef de la communauté.
On a toujours eu des conflits, mais là, c'est de pire en pire. Il y a des champs partout ici, et si les troupeaux entrent dans ces champs et mangent les récoltes, eh bien, les propriétaires nous donnent des amendes. Ils nous réclament des montants si élevés que vendre tout le bétail ne suffirait pas à payer. Toutes les terres sont vendues les unes après les autres, et on nous chasse. Même ici où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un terrain privé. Et si le propriétaire vient, il peut nous chasser. Et alors, on va aller où? Mais nous, on n'a pas d'autre choix que d'élever nos troupeaux. Il en va de notre survie. On en a besoin pour manger et élever nos enfants. Et on ne sait pas faire autre chose que ça. On a peur. On se dit que tôt ou tard, on sera obligé de quitter ce pays, dans l'indifférence générale.
Un reportage de Florence Meurice, Pierre Larouturou. Voilà une réalité qui ne peut laisser personne indifférent.
Je trouve que ce reportage est magnifique et qui dit bien la gravité de la situation. En Europe, on fait des sommets, on fait des colloques, on a l'impression qu'on parle du réchauffement climatique de façon tranquille, et parfois l'été on a des petits problèmes pour arroser nos jardins, et là qu'on voit qu'il y a des millions de gens qui souffrent au quotidien, qui se disent est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans j'aurai, ou dans quelques, j'aurai de quoi nourrir ma famille. Donc on voit bien d'abord la souffrance, et puis toutes les conséquences politiques derrière, que des gens, heureusement, ils vont pas mourir sur place, on espère pour eux. Donc la question des réfugiés, on voit bien le lien, et que certains pays voudraient se barricader, mais si on n'arrive pas à permettre à tous les hommes et toutes les femmes de vivre dignement là où ils sont nés, et donc en particulier de lutter contre le réchauffement et de s'adapter, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas stopper immédiatement le réchauffement, donc en particulier en Afrique, autour de la Méditerranée, il faut mettre des moyens, c'est aussi ce qu'on propose dans le pacte finance qu'on propose, il y a des moyens pour l'Afrique et pour la Méditerranée pour lutter contre le réchauffement, pour développer les énergies renouvelables, mais aussi pour s'adapter, avoir une autre gestion de l'eau, avoir une autre gestion de la terre, et si on n'est pas capable de le faire, on va vers des drames. C'est pas pour rien, Jean-Jouzel est trop modeste pour le rappeler, mais il était vice-président du comité scientifique du GIEC quand ils ont reçu le prix Nobel de la paix, et c'est bien le prix Nobel de la paix qu'ils ont reçu. Ils passent leur temps à analyser le CO2, le méthane, mais c'est pas le prix Nobel de chimie qu'ils ont reçu, c'est le prix Nobel de la paix. Parce que c'est bien la paix mondiale d'ici 20 ans, c'est pas dans 2 siècles, hein. C'est d'ici 10 ans ou 20 ans que ça peut très très mal tourner si on n'est pas capable de changer complètement de braquet et d'un sursaut d'intelligence, de fraternité et d'efficacité.
Oui, Georges Jouzel, ça ne va pas s'arranger.
Non, c'est un des problèmes, le manque d'eau qui est évoqué dans ce reportage, des sécheresses de plus en plus intenses, sont une des conséquences potentielles du réchauffement climatique dans certaines régions de la planète. Et en particulier sur le pourtour méditerranéen, il y en a d'autres, le sud de l'Afrique, l'ouest des États-Unis. Mais pour ce qui nous concerne, eh bien, le bassin méditerranéen est réellement à risque, aussi bien au nord, dans le sud de l'Europe, et on en voit peut-être les premiers signes, il faut être très prudent, mais sur le nord de l'Afrique, c'est très clair, et Donc, quand on combine effectivement réchauffement, vous mentionniez des températures plus élevées, enfin largement supérieures à 50 degrés, et puis des moindres précipitations dans certaines régions, on voit bien la difficulté auxquelles, eh bien, ces peules font face et qui sont très bien sûr, disons, mises en exergue dans ce reportage. Mais c'est vraiment très triste. Et malheureusement, on ne peut pas dire que ça va s'améliorer. On craint au contraire que ça puisse encore s'intensifier, alors que dans d'autres régions, il y aura trop de précipitations, en particulier au nord de l'Europe, avec des risques d'inondations de plus en plus importants.
Alors, dans votre appel, vous dites il nous reste 3 ans pour agir, Pierre Larouturou. 3 ans, c'est peu.
Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore foutu. Parce qu'on pourrait, ici, il y a toutes les semaines des études qui montrent que c'est dramatique. Il y a quelques jours, là, on a vu une étude qui dit que le niveau de l'océan progresse plus vite. Et Jean, il y a quelques minutes, Jean Jouzel racontait comment la glace, c'est une des raisons pour lesquelles le problème est en train de s'accélérer, c'est que la glace, aussi bien la glace du pôle Nord, du pôle Sud et la glace des glaciers dans les Alpes, dans l'Himalaya, fond. Et du coup, ça modifie ce qu'on appelle l'albédo. On a tous appris à l'école qu'une surface qui est blanche, elle renvoie la plupart de l'énergie. Par contre, qu'une surface qui est noire ou marron, elle absorbe l'énergie. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles le problème est en train de s'accélérer, qu'on a effectivement, jusqu'à il y a 30 ans, le CO2 montait dans l'atmosphère, la température montait un tout petit peu, mais le volume de glace ne diminuait pas. Et puis, depuis 30 ans, le volume de glace diminue nettement. Ça, plus la déforestation, plus le permafrost qui se décongèle, on explique dans le livre pourquoi le problème est en train d'accélérer. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas encore foutu. Et qu'on montre, très concrètement, que si il y a déjà plein de choses qui bougent. En France, en Allemagne, dans les pays du Sud, il y a déjà plein de choses qui bougent pour améliorer notre efficacité, consommer moins d'énergie, être un peu plus frugal, avoir un peu plus de sobriété dans notre façon de vivre. Et puis, au lieu d'avoir de l'énergie qui vient du charbon ou du pétrole, avoir une énergie renouvelable. Donc, en gros, 90% des solutions, on les connaît. Il y a encore besoin d'un effort de recherche pour améliorer le stockage de l'énergie, pour améliorer nos pratiques agricoles. Mais en gros, 90% de ce qu'il faut faire, on le sait. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer massivement des emplois. On montre de façon très concrète comment rien qu'en France, on pourrait créer entre 800 000 et 900 000 emplois. Je répète, entre 800 000, voilà. Oui. Donc, il n'est pas trop tard pour agir. C'est pour ça qu'on pense que l'Europe, le sursaut ne viendra pas de Donald Trump, sauf si tout d'un coup, il prend un coup sur la tête. La Chine tient bon, mais a beaucoup de retard. Donc, on montre pourquoi l'Europe a un rôle fondamental en partenariat avec les pays du Sud, mais que l'Europe doit décider de, est-ce qu'on continue à mettre des rustines ou est-ce qu'on est capable d'un sursaut.
Et vous rappelez que l'Europe est capable de grandes choses. Hein. La création de l'Union européenne, ça s'est fait en très peu de temps finalement.
Oui, on raconte au début du livre comment en 2 semaines, même pas, entre le jour où Jean Monnet va voir Schuman à la gare de l'Est pour dire « j'ai une idée dont j'aimerais vous parler » et puis 2 semaines plus tard, Adenauer dit que c'est le plus beau jour de sa vie. C'est un truc énorme. Ça fait un siècle qu'on se tapait dessus, ça fait un siècle qu'il y avait des millions de morts dans tous les conflits et à chaque fois qu'on gagnait la guerre, on prenait le charbon et l'acier du concurrent pour être sûr d'être encore plus costaud la fois suivante. Et tout d'un coup, en 2 semaines, les dirigeants français et allemands décident de changer complètement de logique et disent « pour être sûr qu'il n'y aura plus jamais la guerre, on va mettre ensemble le charbon et l'acier. » Et 8 mois plus tard, le traité était négocié et ratifié, et on le mettait en œuvre avec 6 pays. C'était la France et l'Allemagne qui avaient décidé, mais dès le début, il y avait 6 pays. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'un sursaut du même niveau si on veut éviter une catastrophe mondiale. Et je pense, la bonne nouvelle, c'est que peut-être que Trump, paradoxalement, nous a aidés, parce que les décisions de Trump sont tellement grotesques et scandaleuses, que ou bien on est vraiment un gros imbécile, pour être poli, et on est avec Trump, ou bien on est du côté de ceux qui se bougent et qui veulent sauver le climat.
3 ans, c'est la bonne échelle pour agir, Jean Jouzel ?
Oui, c'est la bonne échelle, en tout cas, quand on parle de 3 ans pour agir, maintenant ce serait plutôt 2 ans. Ce livre a été publié en 2017.
Oui, on est déjà en 2018.
Le GIEC, disons, dans son 4e rapport en 2007, disait clairement que si on voulait avoir des chances de rester, de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au point industriel, c'est-à-dire à peu près 1 degré par rapport à aujourd'hui, eh bien, il faut absolument que le pic d'émissions des gaz à effet de serre ne survienne au plus tard qu'en 2020. C'est ça, les 3 ans pour agir. C'est un pic d'émissions des gaz à effet de serre qui devrait être observé rapidement. On en est malheureusement loin. Les émissions continuent à augmenter. Il faut ensuite un changement radical, divisé par 3 ces émissions entre 2020 et 2050, c'est-à-dire les diminuer de 5 à 6% chaque année. C'est énorme. C'est un changement complet de mode de développement. Et arriver ensuite à neutralité carbone, on parle même d'émissions négatives, c'est-à-dire de piéger du gaz carbonique de l'atmosphère.
Vous avez lancé ce pacte européen finance-climat. Alors, il y a quoi dedans? Comment on fait pour injecter, par exemple, 1 000 milliards d'euros pour le climat d'ici 2 ans? On en parle toujours avec nos 2 invités, Jean Jouzel et Pierre Larouturou. Ce sera juste après le flash d'info. À tout de suite.